deux ans de vacances, chapitre 28. Interrogatoire de Forbes. La situation. Une reconnaissance projetée. Évaluation des forces. Reste de campement. Brigand disparu. Donifan à son secours. Grave blessure. Cri du côté de French Den. Apparition de Forbes. Un coup de canon de Moko. Le lendemain, si fatigante qu'eût été cette nuit sans sommeil, personne n'eut la pensée de prendre une heure de repos. Il n'était pas douteux maintenant que Wollstone emploierait la force puisque la ruse avait échoué. Rock, échappé au coup de feu du master, avait dû le rejoindre et lui apprendre que, ses agissements étant découverts, il ne pourrait plus pénétrer dans French Den sans en forcer les portes. Dès l'aube, Evans, Brian, Donifan et Gordon sortirent du hall en se tenant sur leurs gardes. Avec le lever du soleil, les brumes matinales se condensaient peu à peu et découvraient le lac que ridait une légère brise de l'est. Tout était tranquille aux abords de French Den, du côté du rideau Zealand aussi bien que du côté de Trapp's Woods. À l'intérieur de l'enclos, les animaux domestiques allaient et venaient comme à l'ordinaire. Fan, qui courait sur Sport Terrace, ne donnait aucun signe d'inquiétude. Avant tout, Evans se préoccupa de savoir si le sol portait des empreintes de pas. En effet, des traces y furent relevées en grand nombre, surtout près de French Den. Elles se croisaient en sens divers et indiquaient bien que, pendant la nuit, Wollstone et ses compagnons s'étaient avancés jusqu'au rio, attendant que la porte de storeroom leur fût ouverte. Quant à des taches de sang, on n'en vit aucune sur le sable, preuve que Rock n'avait pas même été blessé par le coup de fusil du master. Mais une question se posait. Wollstone était-il venu, comme les faux naufragés, par le sud du Family Lake, ou n'avait-il point plutôt gagné French Den en descendant par le nord? Dans ce cas, ce devait être du côté de Trapp's Woods que Rock se serait enfui pour le rejoindre. Or, comme il importait d'éclaircir ce fait, il fut décidé que l'on interrogerait Forbes afin de savoir quelle route Wollstone avait suivie. Forbes consentirait-il à parler? Et s'il parlait, dirait-il la vérité? Par reconnaissance de ce que Kate lui avait sauvé la vie, quelque bon sentiment se réveillerait-il au fond de son cœur? Oublierait-il que c'était pour les trahir qu'il avait demandé l'hospitalité aux hôtes de French Den? Voulant l'interroger lui-même, Evans rentra dans le hall. Il ouvrit la porte du réduit où était enfermé Forbes, relâcha ses liens, l'amena dans le hall. « Forbes, dit Evans, la ruse que Rock et toi vous méditiez n'a pas réussi. Il importe que je sache quels sont les projets de Wollstone que tu dois connaître. Veux-tu répondre ?» Forbes avait baissé la tête et, n'osant lever les yeux sur Evans, sur Kate, sur les jeunes garçons devant lesquels le master l'avait fait comparaître, il gardait le silence. Kate intervint. « Forbes, dit-elle, une première fois vous avez montré un peu de pitié en empêchant vos compagnons de me tuer pendant le massacre du Severn. Eh bien, ne voudrez-vous rien faire pour sauver ces enfants d'un massacre plus affreux encore ?» Forbes ne répondit pas. « Forbes, reprit Kate, ils vous ont laissé la vie quand vous méritiez la mort. Toute humanité ne peut pas être éteinte en vous. Après avoir fait tant de mal, vous pouvez revenir au bien. Songez à quel horrible crime vous prêtiez la main. » Un soupir, à demi étouffé, sortit péniblement de la poitrine de Forbes. « Et que puis-je » répondit-il d'une voix sourde. « Tu peux nous apprendre, reprit Evans, ce qui devait se faire cette nuit, ce qui doit se faire plus tard. Attendais-tu Walston et les autres, qui devaient s'introduire ici dès qu'une des portes aurait été ouverte ?»«
Oui, » dit Forbes.
« Et ces enfants, qui t'avaient fait bon accueil, eussent été tués ?» Forbes baissa la tête plus bas encore, et cette fois, il n'eut pas la force de répondre.
« Et maintenant, par quel côté Walston et les autres sont-ils venus jusqu'ici ?» demanda le master.
« Par le nord du lac, » répondit Forbes.
« Pendant que Rock et toi, vous veniez par le sud ?»«
Oui. »
« Ont-ils visité l'autre partie de l'île, à l'ouest ?»«
Pas encore. »
« Où doivent-ils être en ce moment ?»«
Je ne sais. Tu ne peux en dire davantage, Forbes ?»«
Non, Evans, non.
Et tu penses que Walston reviendra ?»«
Oui. »
Évidemment, Walston et les siens, effrayés par le coup de fusil du master, comprenant que la ruse était découverte, avaient trouvé prudent de se tenir à l'écart en attendant quelque occasion plus favorable.
Evans, n'espérant pas en apprendre davantage de Forbes, le reconduisit dans le réduit, dont la porte fut refermée extérieurement.
La situation était donc toujours des plus graves. Où se trouvait présentement Walston ? Était-il campé sous les futaies de Trapp's Woods ? Forbes n'avait pu ou n'avait pas voulu le dire. Et pourtant, rien n'eût été plus désirable que d'être fixé à cet égard. Aussi, la pensée vint-elle au master d'opérer une reconnaissance dans cette direction, bien que ce ne fût pas sans danger. Vers midi, Moko porta quelque nourriture aux prisonniers. Forbes, affaissé sur lui-même, y toucha à peine. Que se passait-il dans l'âme de ce malheureux ? Sa conscience s'était-elle ouverte au remords ? On ne savait. Après le déjeuner, Evans fit connaître au jeune garçon son projet de s'avancer jusqu'à la lisière de Trapp's Woods, tant il avait à cœur de savoir si les malfaiteurs étaient encore aux environs de French Den. Cette proposition ayant été acceptée sans discussion, les dispositions furent prises pour parer à toute fâcheuse éventualité. Sans doute, Walston et ses compagnons n'étaient pas plus que 6 depuis la capture de Forbes, tandis que la petite colonie se composait de 15 garçons, sans compter Kate et Evans, en tout 17. Mais de ce nombre, il fallait éliminer les plus jeunes qui ne pouvaient prendre directement part à une lutte. Donc, il fut décidé que, pendant que le master opérerait sa reconnaissance, Iverson, Jenkins, Dole et Costard resteraient dans le hall avec Kate, Moko et Jacques sous la garde de Baxter. Quant aux grands, Brillant, Gordon, Donifan, Cross, Service, Webb, Wilcox, Garnett, ils accompagneraient Evans. 8 garçons à opposer à 6 hommes. Dans la force de l'âge, cela ne ferait pas la partie égale. Il est vrai, chacun d'eux serait armé d'un fusil et d'un revolver, tandis que Walston ne possédait que les 5 fusils provenant du Severn. Aussi, dans ces conditions, un combat à distance paraissait-il offrir des chances plus favorables, puisque Donifan, Wilcox, Cross étaient bons tireurs, et en cela très supérieurs aux matelots américains. En outre, les munitions ne leur manqueraient pas, tandis que Walston, ainsi que l'avait dit le master, devait être réduit à quelques cartouches seulement. Il était 2 heures après-midi lorsque la petite troupe se forma sous la direction d'Evans. Baxter, Jacques, Moko, Kate et les petits rentrèrent immédiatement dans French Den, dont les portes furent refermées, mais non barricadées, afin que, le cas échéant, le master et les autres pussent se mettre rapidement à l'abri. Du reste, il n'y avait rien à craindre du côté du sud, ni même de l'ouest, car pour suivre cette direction, il aurait fallu que Walston eût gagné Sluggy Bay afin de remonter la vallée du Rio Zeeland, ce qui aurait demandé trop de temps. D'ailleurs, d'après la réponse de Forbes, c'était par la rive ouest du lac qu'il avait descendu, et il ne connaissait point cette partie de l'île. Evans n'avait donc pas à redouter d'être surpris par derrière, l'attaque ne pouvant venir que du côté du nord. Les jeunes garçons et le master s'avancèrent prudemment en longeant la base d'Auckland Hill. Au-delà de l'enclos,
les buissons et les groupes d'arbres leur permettaient d'atteindre la forêt sans trop se découvrir. Evans marchait en tête, après avoir dû réprimer l'ardeur de Doniphan, toujours prête à se porter en avant. Lorsqu'il eut dépassé le petit tertre qui recouvrait les restes du naufragé français, le master jugea opportun de couper obliquement afin de se rapprocher de la rive du Family Lake. Fan, que Gordon eut en vain essayé de retenir, semblait quêter, l'oreille dressée, le nez au sol, et il parut bientôt qu'il était tombé sur une piste. «
Attention !» dit Brillant.
« Oui, répondit Gordon, ce n'est point la piste d'un animal. Voyez l'allure de Fan. »
« Glissons-nous entre les herbes, » répliqua Evans. « Et vous, monsieur Doniphan, qui êtes bon tireur, si l'un de ces gueux se montre à bonne portée, ne le manquez pas. Vous n'aurez jamais si à propos envoyé une balle. »
Quelques instants après, tous avaient atteint les premiers groupes d'arbres. Là, sur la limite de Trapp's Woods, il y avait encore des traces d'une halte récente, des branches à demi consumées, des cendres à peine refroidies.
« C'est ici, à coup sûr, que Walston a passé la nuit dernière, » fit observer Gordon.
« Et peut-être y était-il il y a quelques heures, » répondit Evans. « Je pense qu'il vaut mieux nous rabattre vers la falaise. »
Il n'avait pas achevé qu'une détonation éclatait sur la droite. Une balle, après avoir effleuré la tête de Brillant, vint s'incruster dans l'arbre près duquel il s'appuyait. Presque en même temps, se faisait entendre un autre coup de feu qui fut suivi d'un cri, tandis qu'à 50 pas de là, une masse s'abattait brusquement sous les arbres. C'était Doniphan, qui venait de tirer au jugé d'après la fumée produite par le premier coup de fusil. Mais le chien ne s'arrêtant plus, Doniphan, emporté par sa fougue, se lança derrière lui.
« En avant !» dit Evans, « nous ne pouvons le laisser s'engager seul !»
Un instant après, ayant rejoint Doniphan, tous faisaient cercle autour d'un corps étendu au milieu des herbes et qui ne donnait plus signe de vie.
« Celui-là, c'est Pike !» dit Evans. « Le coquin est bien mort. Si le diable s'est mis en chasse aujourd'hui, il n'en reviendra pas bredouille. Un de moins !»«
Les autres ne peuvent être éloignés !» fit observer Baxter.
« Non, mon garçon, aussi ne nous découvrons pas. À genoux, à genoux !»
Troisième détonation venant de la gauche cette fois. Service, qui n'avait pas assez promptement baissé la tête, eut son front rasé par une balle.
« Tu es blessé ?» s'écria Gordon en courant à lui.
« Ce n'est rien, Gordon, ce n'est rien !» répondit Service. « Une égratignure seulement !» En ce moment, il importait de ne point se séparer. Pike tué, restait encore Walston et 4 des siens qui devaient être postés à petite distance derrière les arbres. Aussi, Evans et les autres, accroupis entre les herbes, formaient-ils un groupe compact prête à la défensive, de quelque côté que vint l'attaque. Tout à coup, Garnett s'écria.
« Où est donc Brillant ?»«
Je ne le vois plus !» répondit Wilcox.
En effet, Brillant avait disparu, et comme les aboiements de Fan retentissaient encore avec plus de violence, il était à craindre que le hardi garçon ne fût aux prises avec quelques hommes de la bande.
« Brillant ! Brillant !» cria Doniphan. Et tous, inconsidérément peut-être, se jetèrent sur les traces de Fan.
Evans n'avait pu les retenir. Ils allaient d'arbre en arbre, gagnant du terrain.
« Gare, master, gare !» cria soudain Cross, qui venait de se jeter à plat ventre.
Instinctivement, le master baissa la tête au moment où une balle passait à quelques pouces au-dessus de lui. Puis, se redressant, il aperçut un des compagnons de Walston qui s'enfuyait à travers le bois. C'était précisément Rock qui lui avait échappé la veille.
« À toi, Rock » cria-t-il.
Il fit feu et Rock disparut comme si le sol se fût subitement ouvert sous ses pas.
« Est-ce que je l'ai encore manqué ?» s'écria Evans. « Mille diables, ce serait de la malchance !»
Tout cela s'était fait en quelques secondes. Tout aussitôt, les aboiements du chien éclatèrent à proximité. Immédiatement, la voix de Doniphan se fit entendre.
« Tiens bon, Brillant, tiens bon » criait-il.
Evans et les autres se portèrent de ce côté, et 20 pas plus loin, ils aperçurent Brillant aux prises avec Cope. Ce misérable venait de terrasser le jeune garçon, et il allait le frapper de son coutelas, lorsque Doniphan, arrivé juste à temps pour détourner le coup, se jeta sur Cope avant d'avoir eu le temps de saisir son revolver. Ce fut lui que le coutelas atteignit en pleine poitrine. Il tomba sans pousser un cri. Cope, observant alors qu'Evans, Garnett et Webb cherchaient à lui couper la retraite, prit la fuite dans la direction du nord. Plusieurs coups de feu furent simultanément tirés sur lui. Il disparut et Fan revint sans avoir pu l'atteindre. À peine relevé, Brian était revenu près de Donifan. Il lui soutenait la tête, il essayait de le ranimer. Evans et les autres les avaient rejoints après avoir rapidement rechargé leurs armes. En réalité, la lutte avait commencé au désavantage de Walston, puisque Pike était tué et que Cope et Rock devaient être hors de combat. Par malheur, Donifan avait été frappé à la poitrine, et mortellement, semblait-il. Les yeux fermés, le visage blanc comme une cire, il ne faisait plus un mouvement, il n'entendait même pas Brian qui l'appelait. Cependant, Evans s'était penché sur le corps du jeune garçon. Il avait ouvert sa veste, puis déchiré sa chemise qui était trempée de sang. Une étroite plaie triangulaire saignait à la hauteur de la quatrième côte du côté gauche. La pointe du coutelas avait-elle touché le cœur? Non, puisque Donifan respirait encore. Mais il était à craindre que le poumon eût été atteint, car la respiration du blessé était extrêmement faible. « Transportons-le à Frenchden, » dit Gordon. « Là seulement nous pourrons le soigner. »« Et le sauver !» s'écria Brian. « Ah, mon pauvre camarade, c'est pour moi que tu t'es exposé !» Evans approuva la proposition de ramener Donifan à Frenchden, d'autant plus qu'en ce moment, il paraissait y avoir quelque répit à la lutte. Vraisemblablement, Walston, voyant que les choses tournaient mal, avait pris le parti de battre en retraite dans les profondeurs de Trapp's Woods. Toutefois, ce qui ne laissait pas d'inquiéter Evans, c'est qu'il n'avait aperçu ni Walston, ni Brandt, ni Book, et ce n'était pas les moins redoutables de la bande. L'état de Donifan exigeait qu'il fût transporté sans secousse. Aussi, Baxter et Service se hâtèrent-ils d'établir une civière de branchage sur laquelle le jeune garçon fut étendu sans avoir repris connaissance. Puis, quatre de ses camarades le soulevèrent doucement, tandis que les autres l'entouraient, leurs fusils armés, leurs revolvers à la main. Le cortège regagna directement la base d'Oakland Hill. Cela valait mieux que de suivre la rive du lac. En longeant la falaise, il n'y aurait plus à veiller que sur la gauche et en arrière. Rien, d'ailleurs, ne vint troubler ce pénible cheminement. Quelquefois, Donifan poussait un soupir si douloureux que Gordon faisait signe de s'arrêter afin d'écouter sa respiration, et un instant après, on se remettait en marche. Les trois quarts de la route furent faits dans ces conditions. Il ne restait plus que 800 à 900 pas à franchir pour atteindre Frenchden, dont on ne pouvait encore apercevoir la porte cachée par une saillie de la falaise. Tout à coup, des cris retentirent du côté du Rio Zeeland. Fan bondit dans cette direction. Évidemment, Frenchden était attaqué par Walston et ses deux compagnons. En effet, voici ce qui s'était passé, ainsi que cela fut reconnu plus tard. Pendant que Rock, Cope et Pike, embusqués sous les arbres de Trapp's Woods, occupaient la petite troupe du master, Walston, Brandt et Book avaient gravi Oakland Hill en remontant le lit desséché du torrent de Dyke Creek. Après avoir rapidement parcouru le plateau supérieur, ils étaient descendus par la gorge qui aboutissait à la berge du Rideau, non loin de l'entrée de Stone Room. Une fois là, ils étaient parvenus à enfoncer la porte qui n'était pas barricadée et avait envahi Frenchden. Et maintenant, Evans arriverait-il assez tôt pour prévenir une catastrophe? Le master eut rapidement pris son parti, tandis que Cross, Webb et Garnett restaient près de Donifan, qu'on ne pouvait laisser seul. Gordon, Brian, Service, Wilcox et lui s'élancèrent dans la direction de Frenchden en prenant au plus court. Quelques minutes plus tard, dès que leurs regards purent s'étendre jusqu'à Spot Terrace, ce qu'ils virent,
était bien pour leur enlever tout espoir. En ce moment, Wollstone sortait par la porte du hall, tenant un enfant qu'il entraînait vers le rideau. Cet enfant, c'était Jacques. En vain, Kate, qui venait de se précipiter sur Wollstone, essayait-elle de le lui arracher. Un instant après, apparaissait le second compagnon de Wollstone, Brant, qui s'était saisi du petit costard et l'emportait dans la même direction. Baxter, lui aussi, vint se jeter sur Brant, mais repoussé violemment, il roula sur le sol. Quant aux autres enfants, Dole, Jenkins, Iverson, on ne les voyait pas, non plus que Moko. Est-ce qu'ils avaient déjà succombé à l'intérieur de Frenchden? Cependant, Wollstone et Brant gagnaient rapidement du côté du rio. Avaient-ils donc la possibilité de le franchir autrement qu'à la nage? Oui, car Book était là, près de la yole, qu'il avait tirée hors de Storm. Une fois sur la rive gauche, tous trois seraient hors d'atteinte. Avant qu'on eût pu leur couper la retraite, ils auraient regagné leur campement de Bear Rock avec Jacques et Costard, devenus des otages entre leurs mains. Aussi, Evans, Brillant, Gordon, Cross, Wilcox couraient-ils à perte d'haleine, espérant atteindre Spot Terrace avant que Wollstone, Book et Brant se fissent mis en sécurité au-delà du rideau. Quant à tirer sur eux à la distance où ils se trouvaient, c'eût été s'exposer à frapper Jacques et Costard en même temps. Mais Fan était là. Il venait de bondir sur Brant et le tenait à la gorge. Celui-ci, très gêné pour se défendre contre le chien, dut lâcher Costard pendant que Wollstone se hâtait d'entraîner Jacques vers la yole. Soudain, un homme s'élança hors du hall. C'était Forbes. Venait-il se joindre à ses anciens compagnons de crime après avoir forcé la porte du réduit? Wollstone n'en douta pas. « À moi, Forbes, viens, viens !» lui cria-t-il. Evans s'était arrêté et il allait faire feu lorsqu'il vit Forbes se jeter sur Wollstone. Wollstone, surpris par cette agression à laquelle il ne pouvait s'attendre, fut obligé d'abandonner Jacques et, se retournant, il frappa Forbes d'un coup de coutelas. Forbes tomba aux pieds de Wollstone. Cela s'était fait si vite qu'à ce moment, Evans, Brillant, Gordon, Service et Wilcox étaient encore à une centaine de pas de Spot Terrace. Wollstone voulut alors ressaisir Jacques afin de l'emporter jusqu'à la yole où Book l'attendait avec Brant, lequel était parvenu à se débarrasser du chien. Il n'en eut pas le temps. Jacques, qui était armé d'un revolver, le lui déchargea en pleine poitrine. C'est à peine si Wollstone, grièvement blessé, eut la force de ramper vers ses deux compagnons qui le prirent dans leurs bras, l'embarquèrent et repoussèrent vigoureusement la yole. En ce moment, retentit une violente détonation. Une volée de mitraille cingla les eaux du rio. C'était la petite pièce que le mousse venait de décharger à travers l'embrasure de Storm. Et maintenant, à l'exception des deux misérables qui avaient disparu sous les massifs de Trapp's Woods, l'île Chairman était délivrée des meurtriers du Severn, entraînée vers la mer par le courant du rio Zélande.